Yeah. Ramdam. Mm.
Ramdam.
Ramdam.
كل واحد فاكر اللي جاب خصه بالسناسيل.
Ramdam, une collection de textes de littérature arabe contemporaine proposée par le collectif La Réplique.
Jali Barcilon est auteur et metteuse en scène aujourd'hui au sein de la compagnie Lisa Clax. Elle fait notamment partie du collectif La Poursuite, pour qui elle a coécrit Beyrouth Adrénaline, mise en scène par Alaa Rossen. Road Movie Alzheimer, écrit en 2008 à Alexandrie, est l'histoire de trois générations de femmes. La grand-mère, Suzanne, la mère, Doris, et la fille, Clara. Réunies pour le dernier voyage de la plus âgée, Suzanne, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est un retour vers l'Égypte, à la recherche d'un héritage perdu. Dans l'appartement parisien de Doris et Clara. On sonne à la porte.
Clara !
Je peux pas, c'est vendredi.
Qu'est-ce que c'est que cette lubie ? Clara, je suis nue, je...
Et puis, je ne m'appelle plus Clara.
Et comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Shlomit.
Shlomit ? Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Tu sors de cette chambre, Clara.
Shlomit.
Tu sors de cette chambre, Shlomit, et tu vas ouvrir la porte.
Je ne peux pas toucher à l'interphone, c'est Shabbat.
Shabbat ?
Doris ouvre. Suzanne est sur le pas de la porte.
Maman ? Qu'est-ce que tu fais là ?
C'est à cette heure-ci que tu rentres ? Je vous ai cherché toute la nuit, toi et ta sœur. La ville est en feu. Et toi, tu te pavanes en mini-jupe ?
Ils t'ont laissé sortir ?
Ils m'ont laissé sortir. Je t'ai laissé sortir, tu veux dire, et tu reviens à moitié nu. Charmouta.
Ne me traite pas de charmouta.
C'est quoi, une charmouta ?
Est-ce que c'est moi qui t'ai appris à déambuler comme une...
Tu n'étais pas bien là-bas ?
Là-bas ?
Oui, là-bas.
Si, si. C'est gentil de m'avoir emmenée là-bas. C'est gentil et c'est joli. Il y a des rosiers japonais sous ma fenêtre. C'est joli, les rosiers japonais. Mais pour passer les vacances, c'est un peu triste.
Ta chambre est claire, maman, c'est plein sud.
Plein sud, quand on est en pleine banlieue nord.
Et puis moi, je pensais qu'on irait à Monaco. Toutes les trois, comme chaque été, à Monaco. Je ne pensais pas que vous me laisseriez toute seule à Sarcelles. Il n'y a pas la mer à Sarcelles. Il y a la mer à Sarcelles. Et puis là-bas, il n'y a que des vieilles. Ça me dégoûte, les vieilles. Les vieilles avec la langue pendue, les vieilles avec la langue qui se décroche. Mais... Pourquoi tu restes sur le pas de la porte ? Tu repars déjà et tu ne me dis rien ? Et tu ne me préviens pas et je suis comme toujours la dernière à qui l'on dit les choses ?
Moi aussi, je suis contente de te voir, maman. Clara.
Shlomit.
Shlomit. Viens embrasser ta grand-mère. Elle n'est pas électrique, elle.
Qui est cette jeune fille, ma chérie ? Encore une de tes copines en mini-jupe ?
C'est Clara, maman. Clara, c'est ma fille, à moi. Clara, c'est ta petite fille, à toi. Et moi, je suis ta fille, à toi.
Tu comprends, mamie ?
Clara, ma petite fille, mon trésor.
Oui, c'est ça. Clara, ta petite fille.
ton trésor.
N'écoute pas ce qu'elle dit, celle-ci, c'est une langue à mensonges. Comment est-ce possible? Deux filles élevées par la même mère, et résultat de la vie, un trésor et une charmouta. Doris, ma fille.
Mamie, je ne suis pas ta fille. Et Doris est ma mère. Doris n'est pas ma sœur.
Écoutez, mademoiselle, vous n'allez pas rester plantée là comme un piquet à regarder ma fille sans nous apporter un peu de whisky.
Oui, Clara, apporte-nous un peu de whisky. Et nous allons profiter de cette petite réunion de famille pour parler du Shabbat.
Et si on faisait une partie de bridge?
C'est à Rome, le bridge.
Va chercher à boire.
Où est le whisky?
Suzanne, je n'y comprends rien. Elle dit qu'elle part en week-end avec Marion. Je me dis, elles vont faire le mur, elles vont faire des bêtises, enfin. Makesh Walou, elles partent en méditation avec les scouts juifs.
Pas trop fort, ma chérie.
Pourquoi il ne faut pas dire juif?
Alors, Clara, raconte à Suzanne. Où tu pars le week-end prochain?
Bah, chez le père de Marion, à côté de Tulle.
Langue à mensonge. Partez avec les scouts juifs de France au sommet des Alpes et parlez avec Dieu du 6 au 8 octobre. 300 francs. C'est dans la montagne qu'Élie a vu le Seigneur. C'est sur le mont Sinaï que Moïse a reçu les tables de la loi. C'est dans la montagne que la jeune fille découvrira l'ascèse, le travail et la sagesse. C'est une secte ton truc, Clara.
Je m'appelle Shlomit et les juifs, c'est pas une secte.
Tu veux vraiment découvrir l'ascèse et la sagesse par le travail? T'as pas plutôt un petit copain avec des bagodans?
Moi, je veux comprendre d'où je viens. Vous ne me dites jamais rien. D'abord, la mère donne le sein à son enfant, ensuite elle lui donne sa religion. Vous êtes toutes les deux juives. Alors moi, tout ce que je sais, c'est que je suis juive.
Pas trop fort, ma chérie.
Moïse est juif et égyptien. Nous, on est juives et égyptiennes. Alors moi, je pars sur les traces de Moïse.
Chut, ils vont nous tuer.
En grimpant le Mont Blanc.
Tout le Caire est en feu.
Maman, nous sommes à Paris.
Et les Majnounis, avec leurs pierres, s'ils montent, ils nous frappent. Éteins la lumière, Doris.
Mamie, je suis Clara. Je suis la fille de Doris. Doris est ta fille à toi. Et toi, tu es Suzanne, tu es la mère de Doris. Et Doris est ta fille. Et moi, je suis ta petite fille.
Ça commence à me porter sur les nerfs, votre tragédie grecque. Éteins la lumière. Doris, tu attends que je sois morte pour faire des enfants?
J'ai une fille, maman, elle est là. C'est Clara.
Shlomit.
Shlomit, Shabbat, l'incendie. J'appelle le stage Croix rendu en 4 jours et j'annule tout. Et je raccompagne Suzanne à Sarcelles.
Je suis grande, je fais ce que je veux. Je crois ce que je veux, c'est pas toi qui vas.
Je ne veux pas revoir les vieux sourdingues de Sarcelles.
Maman, laisse-la rester avec nous. On ne se voit jamais.
Je ne peux pas m'occuper d'elle, j'ai un roman à finir.
C'est ta mère quand même. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
Une nuit, pas plus d'une nuit.
Une nuit ce soir et encore une nuit demain, d'accord?
Demain soir, j'ai un invité.
Ah, t'es le nouveau avec son kéfier? Tu l'invites et tu me demandes même pas mon avis.
J'invite qui je veux, même les hommes qui portent des kéfiers.
Pas chez moi.
Pardon?
Pas chez moi.
Pas chez qui?
Il lance des roquettes, il tue les enfants, il...
Au lit!
On dirait pas que t'es juive, toi.
Ok, sainte Shlomit. Demain, tu vas au bahut, moi, je me lève aux aurores. Alors va préparer un matelas pour Suzanne. Et une tisane, nuit calme. Il paraît que les vieilles, ça fait des insomnies. T'en boiras avec elle.
Elle dort où?
Dans ta chambre, trésor.
Je dors chez toi?
Oui, mamie.
Je dors chez toi? Tes parents veulent bien? Tu me prêteras une chemise de nuit? J'ai oublié la mienne.
Tu connais Mylène Farmer? Fendre la lune, baiser d'épines et de plumes, bercé par un petit vent, je déambule. La vie est triste comme un verre de grenadine, aimer pleurer quand on s'incline.
Je suis libertine, je suis une catin.
Je suis si fragile,
qu'on me tienne la main.
Moins fort, Clara.
Mamie, ça veut dire quoi, libertine?
Je ne sais pas. Demande à ta mère.
Dans un hôtel d'Alexandrie, la nuit.
Dis-moi ce que tu vois.
Il y a un vieil homme qui cire des chaussures et une femme qui court sur la route. Elle porte un bébé dans les bras.
Est-ce que tu vois la mer?
Il roule comme des fous ici. Le ciel est tout noir. On reprend? Alors Moïse va voir le pharaon et lui dit: ainsi parle le Seigneur.
Si tu refuses toujours de laisser partir mon peuple, je vais frapper tout ton territoire du fléau des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles.
Pourquoi est-ce qu'il envoie des grenouilles? C'est ridicule. Moi, si j'étais Dieu, j'enverrais des araignées, des scorpions, des dragons.
Pourquoi on ne répète pas le passage de la grêle? Ou les premiers-nés quand ils tuent tous les bébés, c'est bien ça.
Moi, je veux comprendre pourquoi Dieu a décidé d'envoyer des grenouilles, de ridicules petites grenouilles dans le désert, sur le pharaon.
Assieds-toi. Ferme les yeux. Respire. Doucement. Maintenant, imagine une grenouille. Une toute petite grenouille, verte, un peu visqueuse. Elle saute sur tes pieds. Elle grimpe sur ta robe. Elle s'enroule dans tes cheveux. Maintenant, imagine deux grenouilles. Elles sautent sur tes pieds. Elles remontent le long de ta jambe, se glissent sous ta robe, pincent ta culotte en dentelle et se glissent sous ton soutien-gorge. Maintenant, garde les yeux fermés, respire et imagine 1000 grenouilles qui débarquent. Elles sautent sur tes pieds, remontent sur ta jambe, déchirent ta culotte et dégrafent ton soutien-gorge.
Ah,
10 000 grenouilles t'égratignent les pieds, te lacèrent les jambes, mangent ta culotte et t'arrachent la peau des seins.
Arrête!
Lève-toi et lis.
Laisse partir mon peuple. Si tu refuses toujours de le laisser partir, je vais frapper tout ton territoire du fléau des grenouilles. Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs, chez ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins, sur toi, sur ton peuple, sur tous tes serviteurs grimperont les grenouilles. Et le pharaon dit:
pitié, assez de grenouilles.
Pitié, assez, pitié, assez de grenouilles.
Pitié,
assez
de grenouilles.
Assez.
Thank you.
Vous écoutiez Road Movie Alzheimer, un texte de Jali Barcillon. Il était interprété par Sarah Sontonax, Maud Buinou, Cécile Perrault, avec la collaboration de Pascal Rosan.
Jali Barcillon, bonjour.
Bonjour.
On vient d'écouter un extrait de Road Movie Alzheimer. Ce texte, c'est le récit d'un retour, d'un exil à l'envers vers une Égypte natale pour Suzanne, une des trois femmes de ce récit. Alors Suzanne est atteinte de la maladie d'Alzheimer et ce road movie, c'est aussi la confrontation de la mémoire et de l'oubli, de l'intime et de l'historique. Vous pensez que c'est à partir de l'intime qu'on peut le mieux observer l'histoire, cette histoire qu'on dit avoir un grand H ?
Je pense que l'histoire, elle est faite effectivement de la somme de toutes les intimités. Après, moi, en tant qu'auteur de théâtre, je suis loin d'être historienne. Donc, j'avoue que mon domaine d'observation et de prédilection, c'est les êtres humains et leurs failles et leur humour aussi et leur amour et leur donc c'est ça qui me passionne. Et après, voir comment tout ce qu'on essaye de bâtir dans une vie peut parfois être complètement bousculé par des grands événements historiques, oui, ça m'intéresse.
Ce texte a été écrit à l'occasion d'une résidence d'écriture. Vous étiez vous-même en Égypte. Est-ce que c'est à partir de votre propre histoire que vous avez développé Road Movie Alzheimer ?
Alors pour la jeunesse, donc la petite histoire de Road Movie Alzheimer, en fait effectivement j'ai été contactée par Patrice Douchet qui est le directeur du théâtre de la Tête Noire à Saran, qui est un théâtre dédié à l'écriture contemporaine et qui offre l'opportunité à 5 auteurs de partir dans le pays de leur choix. Et donc il m'a proposé ça et ma première réaction ça a été de dire bah non, j'irai pas en Égypte, je vais pas écrire sur mon histoire, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Et puis j'ai passé une nuit blanche et je devais annoncer le pays de mon choix et en fait après la nuit blanche j'ai dit non, je veux aller en Égypte. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement c'est l'histoire de ma grand-mère maternelle, c'est le point de départ de cette pièce de théâtre. Puisque ma grand-mère maternelle est née en Égypte, elle y a vécu pendant de nombreuses années avec son mari et ses 7 enfants. Et il se trouve qu'en 1956, le colonel Nasser a fait un coup d'État. Et que suite à ça, il a commencé à avoir une politique contre les étrangers, c'est-à-dire contre les Italiens, les Anglais, les Français, les Arméniens, les Grecs, les Juifs. Parce qu'il associait toute la communauté étrangère à la colonisation, en fait. Tout le monde était considéré comme des colonisateurs et aussi antisémites contre les Juifs, puisqu'on est vraiment 10 ans après la création d'Israël. Donc voilà comment ma famille s'est retrouvée sur les routes.
Je crois d'ailleurs que lorsque les Juifs partaient, étaient expulsés de l'Égypte par le colonel Nasser, un tampon était placé sur leur passeport et sur lequel était écrit « sans espoir de retour ». C'était vrai ?
Oui, exactement. En fait, mais je ne sais pas si on peut parler d'expulsion ou si les gens ont eu tellement peur qu'ils sont partis d'eux-mêmes, en fait. Ou d'eux-mêmes. C'est jamais d'eux-mêmes, mais c'est comme, on peut faire un parallèle avec les sans-papiers ici. C'est que ne plus avoir de papiers pour travailler, ne plus avoir de le droit de vivre ici. Au bout d'un moment, c'est une expulsion. Les gens sont pas forcément venus. La police n'est pas venue dans leur maison pour les mettre dehors, mais il y avait un tel climat de crainte et de non-possibilité de vivre sur la terre. Du coup, les gens partaient.
Malgré ce sans-retour, un retour quand même pour retrouver cette mémoire disparue ou sur le point de disparaître. Lorsque vous étiez en résidence d'écriture en Égypte, vous vous êtes senti dans un ailleurs ou vous vous êtes senti chez vous ?
C'est une bonne question. Moi, je suis revenue en Égypte pour cette résidence. Et en fait, peu de gens de ma famille sont repartis. Je pense que pour ma grand-mère, elle a eu vraiment peur de ce tampon voyage sans retour, comme s'il y avait vraiment une menace de mort à revenir là-bas. Et du coup, en faisant le geste de retourner là-bas, c'était aussi une façon de dire, bon, peut-être que cette peur est partie, peut-être qu'on peut y aller, on n'est pas des éternels indésirables là-bas, quoi. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Après, quand je suis arrivée là-bas, j'étais seule. Donc le début, l'arrivée au Caire, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est une ville qui bouge tout le temps, c'est une ville où on se perd. Donc au début, oui, on se sent complètement ailleurs parce qu'on n'a aucun repère géographique, enfin... Moi, en tout cas, ça m'a fait ça. Et en fait, bizarrement, le moment où je me suis sentie le plus chez moi, c'est le moment où j'étais sur un bateau sur le Nil. Il y a quelque chose qui s'est passé d'un calme déjà qui est lié à la rivière, le fait de tout d'un coup de pouvoir écrire aussi, c'est un endroit où qui est hors du temps, donc on peut écrire assez tranquillement. Et surtout, j'ai senti quelque chose des racines africaines, parce que le Nil, ça ressemble, enfin c'est l'Afrique déjà, et j'ai un peu voyagé là-bas, et je sais pas pourquoi tout d'un coup je me suis dit tiens. Je me sens africaine, voilà. Donc oui, à un moment donné, j'ai eu une sorte de réconciliation, comme ça.
Djali Barcilon, lorsque vous étiez en Égypte en 2008, Hosni Moubarak en était encore le président. Les choses ont bien changé dans ce pays entre-temps. Une révolution au cours de ce printemps. Quel regard vous portez sur cette révolution et sur l'évolution politique de l'Égypte ?
Bah, la première chose, et je crois comme tout le monde, j'ai été très surprise par ce soulèvement populaire, par le fait de voir effectivement des millions de personnes place Tahrir. J'étais très enthousiaste. Enfin, la première réaction, ça a été ça. Pourquoi ? Il se trouve que quand je suis allée en Égypte, ce qui m'a beaucoup, beaucoup peinée, c'est... Je me suis dit, au fond, en 56, quand Nasser a mis la communauté étrangère dehors, c'était un acte aussi d'émancipation de l'Égypte. C'était redonner le canal de Suez aux Égyptiens, redonner la richesse aux Égyptiens, que le peuple puisse être indépendant, que les gens aient de quoi travailler, de quoi manger. Enfin, le discours nationaliste, il était aussi un discours qui était teinté de gauche et pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a eu un grand espoir chez les Égyptiens à cette époque, parce que effectivement, il faut le dire, il y avait beaucoup de musulmans à l'époque qui étaient devenus des gens qui avaient pas beaucoup de bien. Et donc il y a eu un grand espoir, c'était une révolution à l'époque, il y a eu un grand espoir, et en fait cet espoir il a été sans cesse déçu, puisque tous les présidents qui se sont en suivis ont souvent été des gens corrompus, et que finalement le peuple n'a jamais été mis en avant. Et donc je me suis dit, c'est comme si on avait de nouveau une révolution. On a, cette fois, ça vient pas d'un général, mais ça vient du peuple, donc c'est quand même une belle chose. Et j'espère vraiment que ça va ouvrir sur cette émancipation. Moi, quand j'y suis allée, j'ai trouvé que c'était très pauvre. J'ai trouvé que les gens étaient... Et j'ai entendu beaucoup de gens me parler du fait qu'ils travaillaient, peut-être 20 heures par jour, qu'ils avaient trois boulots, alors qu'ils avaient fait des études et qu'ils se retrouvaient à travailler sans gagner quasiment, enfin, en gagnant très peu d'argent. On sent la peur de la police là-bas, on sent... Donc je vous dis, d'un côté, ça donne espoir, et de l'autre... Bah, on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois au niveau des élections, je sais pas trop quoi. On espère que la démocratie puisse arriver, et en même temps je pense qu'il y a des tournants à prendre qui vont pas forcément être évidents. Voilà, parce que je pense que c'est pour faire la révolution tout en ayant très peu d'argent pour faire vivre sa famille, je sais pas, ça me paraît dur, mais j'espère que ça va marcher.
Road Movie Alzheimer n'est pas une pièce de théâtre historique, mais l'histoire, on le disait tout à l'heure, y apparaît au travers de la vie de ces trois femmes, et notamment un épisode de l'histoire célèbre, cette poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Ça ne leur a pas porté chance véritablement à tous les deux, mais est-ce que vous croyez que cette nouvelle donne politique en Égypte est susceptible d'améliorer les rapports entre Israël et le monde arabe ?
Je pense que l'Israël est quand même un pays très extrémiste également, que dans chaque pays arabe autour, il y a aussi beaucoup d'extrémisme, plus beaucoup de corruption, etc. Donc je me dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les choses elles arrivent à s'apaiser. Moi, ce que j'ai essayé de raconter, en tout cas à travers le mouvement Alzheimer, je voulais juste rappeler qu'en Égypte, avant les années 50, on a cohabité, les juifs et les musulmans ont cohabité pendant de nombreuses années. que moi j'essaye d'écrire une pièce qui parle de ça, de ce cosmopolitisme possible. Et quand je cite l'histoire d'Isaac Rabin et Yasser Arafat, c'est aussi pour dire que Rabin a été tué par un juif extrémiste et pas par un musulman, et que le souci c'est pas la religion, c'est l'extrémisme.
La mémoire perdue d'une multiculturalité, d'un cosmopolitisme, peut-être pas si perdue que ça, en tout cas présente dans ce texte, Road Movie Alzheimer. Je crois que vous allez le donner bientôt à Avignon, ce sera le 14 juillet.
Oui, on va faire une lecture le 14 juillet à 10h30 à la salle Présence Pasteur, dans la petite salle. Donc ça va être la première lecture publique de Road Movie Alzheimer que je vais faire donc avec l'équipe des trois comédiennes avec qui je souhaite mettre en scène ce spectacle dans un an. Voilà.
Merci beaucoup, Jali Barcillon.
De rien, et à bientôt.